Du 28 août au 1er septembre avait lieu le festival des Rias en pays de Quimperlé, le premier festival de théâtre de rue en Bretagne avec plus de 50 000 spectateurs alors qu'il n'en est qu'à sa deuxième édition. Radio Ria, un programme radiophonique en 3 épisodes réalisé par Paco Canal B avec la participation de Fabienne Kemener et Renan Lecause.
C'est vrai que c'est devenu le rendez-vous du théâtre de rue en Bretagne. Et puis pour nous, pour le Pays de Quimperlé, c'est l'occasion de faire partager un bon moment à nos visiteurs et puis également de leur faire mieux connaître le Pays de Quimperlé.
Alors ça veut dire, c'est des gens qui viennent d'un petit peu partout, c'est pas uniquement des locaux.
Alors c'est vrai que c'est à la fois, on va dire, le rendez-vous des locaux, c'est-à-dire c'est bientôt la rentrée, donc on profite des RIA pour se donner rendez-vous, pour se retrouver à l'occasion de la rentrée, mais c'est aussi l'occasion pour nous, au niveau du territoire, d'attirer des touristes, on va dire, sur cette fin estivale. Là, dans nos différents bureaux d'accueil de l'Office de Tourisme, on constate qu'on a des personnes qui viennent pour l'événement ou qui étaient en villégiature sur le Pays de Quimperlé, qui ont connaissance du festival et qui vont en profiter pour prolonger leur séjour sur le territoire. Donc ça, c'est vraiment un super atout pour nous pour cette fin d'été. Le Festival des Rias, c'est le rendez-vous du théâtre de rue, mais aussi c'est le rendez-vous touristique, on va dire, pour le Pays de Quimperlé, pour favoriser et donner un écho favorable à notre destination. Et c'est vrai qu'on trouve cette cohérence entre la partie terre, la partie océan, la partie Quimperlé, terre-océan.
Lebris, ancien maire de Banalec.
J'avais découvert un peu l'année dernière sur Quimperlé, mais cette année, la première dans la commune de Banalec. Et je suis très heureux, alors d'autant plus je dis ça, d'autant plus je suis pour rien, puisque bien sûr maintenant je ne suis plus élu, donc de voir ce qu'ils ont fait sur la commune de Banalec, tout ce monde dans le centre de Banalec, ça me fait franchement, ça me fait plaisir. Toutes les fêtes sont une cohésion sociale, c'est-à-dire que je crois que pendant les mandats que j'ai pu exercer, on a fait beaucoup de choses pour que les associations vivent bien, parce que j'ai remarqué que dans une association, il y a de tout. Il y a des vieux, des jeunes, des riches, des pauvres, des gens de droite, des gens de gauche. Et quand il y a une fête, tout le monde est en même temps. Et je crois que c'est un ciment social extraordinaire. Et donc de voir que ça continue avec mon successeur, ça me fait vraiment beaucoup plaisir.
Parce que c'est difficile de faire vivre la culture en particulier, mais dans les petites communes.
Oui, la culture, c'est assez compliqué. C'est vrai que faire vivre le sport, ça me semble plus facile. Mais la culture, sous toutes ses formes, il faut que les gens découvrent. Aujourd'hui, ils vont découvrir, dans le Festival des Rias, ils vont découvrir un peu la culture, le spectacle de rue, comme on dit. Et je crois que ça commence, la mayonnaise a bien pris, donc ce n'est pas la première fois qu'il y a beaucoup de monde. Et je crois que ça continuera encore à prendre. Et les gens vont apprécier, vont en parler. Et puis, je sais que dans les jours qui viennent, certaines personnes diront « Ah, si j'avais su !»
Arnaud Tailleron, adjoint à la culture de la commune de Banalec.
C'est quelque chose de populaire, la culture, on n'y pense pas trop sur le vif, quoi. On cherche surtout à faire vivre la ville. Et puis c'est bien, le prétexte du théâtre de rue, ça change un petit peu de ce qu'on peut trouver habituellement ici, peut-être plus basé sur, sur de la tradition et du folklore et autres, quoi. Donc ça permet de, ben voilà, de d'étonner un peu les gens, je pense, avec un gars qui monte en haut de l'église, qui en fait le tour, des grands spectacles sur des grandes étagères, c'est très, très intéressant pour nous et ça change un petit peu de l'ordinaire, je pense. C'est le côté populaire un peu de ce type de manifestation et on y tient beaucoup, même au niveau des bénévoles, des associations. Il y a eu vraiment une volonté de rendre des tarifs attractifs au niveau de l'alimentation, des boissons, etc. Ça a été vraiment profiter de cet élan de gratuité pour essayer de rester dans cet esprit, de se démarquer un peu de certaines manifestations qui, elles, sont payantes et autres, quoi, voilà.
Avec Natacha Renaud, qui est administratrice d'Itinéraire BIS, une structure départementale des Côtes d'Armor qui irrigue le territoire de projets culturels depuis déjà maintenant plusieurs années. Et on sort de la rencontre professionnelle qui avait lieu au manoir de Kernot. Et je voulais recueillir un petit peu tes impressions sur ces discussions sur les croisements de réseaux.
Alors, moi j'ai une position un petit peu particulière en fait dans cette assemblée, puisque je suis une passionnée des arts de la rue depuis fort fort longtemps. J'ai exercé aussi des responsabilités professionnelles et du coup c'est toujours avec plaisir que je viens prendre la température des réflexions de ce réseau-là, parce que c'est quand même un réseau structuré, avec des centres nationaux qui aident les artistes à créer dans des conditions professionnelles et acceptables. Ils étaient d'ailleurs un certain nombre à être représentés, Sotteville, Niort, et puis bien sûr celui de Bretagne qui est installé à Brest.
Oui, je précise d'ailleurs que tu as fait partie un petit peu des fondations de cette idée de structuration des arts de la rue, puisque tu étais à Lieu Public, Centre National des Arts de la Rue, qui a beaucoup œuvrer justement pour la reconnaissance des arts de la rue. Et qu'est-ce que tu en penses justement au jour d'aujourd'hui, des avancées à ce niveau-là?
Je pense que réellement ça a avancé. C'est vrai que ces endroits, ces centres nationaux, ça fait un petit peu partout sur le territoire national des équipes qui sont particulièrement convaincues que les arts de la rue ont besoin d'équipements pour créer. Alors c'est souvent des grandes halles, des espaces assez libres, hein, pour que quand même ce soit protégé des intempéries, mais que ça ressemble à l'espace public. Alors c'est vrai qu'il y en a un certain nombre sur le territoire. Après, ça a été signalé, hein, pendant la rencontre. C'est vrai qu'aujourd'hui, les sommes qui sont dévolues au théâtre de rue en France, même si on est un pays très très favorable au théâtre de rue en Europe, il faut quand même le dire aussi, et à la culture en général et aux artistes du spectacle vivant également, c'est vrai que c'est un parent pauvre quand même, ça reste un parent pauvre, le secteur des arts de la rue, et comme ça a été dit également à la rencontre, c'est un secteur qui travaille en prise directe avec les élus des petites villes, des petites communes, avec les collectivités, notamment du fait que les spectacles sont souvent gratuits au public. Et effectivement, ces artistes-là, ils ne sont pas payés sur des recettes de billetterie. Il faut qu'ils soient invités, finalement, par des collectivités. Ça a été dit également à la rencontre, c'est quand même toute une économie. Hein, c'est des artistes qui génèrent des tournées impressionnantes dans des villes, et les villes elles-mêmes recueillent les bénéfices, quoi, finalement, de toute cette économie. Tu le signalais toi-même lors de la rencontre, les hôtels sont pleins, les restaurants fonctionnent bien, jusque dans les gîtes, et toute l'économie locale des artistes qui créent, qui achètent du matériel, voilà, ça participe complètement à l'économie. Alors ce que je vois, moi, comme ça, avec le recul, puisque que je ne suis plus dans ce milieu déjà depuis un certain temps, c'est que finalement, c'est ce que j'ai voulu dire tout à l'heure, c'est que tout ça est encore, hein, et toujours, au bout de 25 ans de vie créatrice hyper riche autour de cette notion des arts de la rue qu'il conviendrait de définir, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de projets très très différents, C'est toujours affaire de conviction. C'est-à-dire qu'en fait, c'est à chaque fois du montage de projet, ça prend du temps, il faut convaincre, il faut convaincre des élus. Et c'est vrai que souvent, quand on a ces CNAR ou des structures culturelles qui sont à l'écoute de ces œuvres artistiques-là, c'est absolument fondamental pour convaincre les élus et notamment les institutionnels aussi, à de financer quand même ces projets-là, qui sont un retour aussi de la citoyenneté dans l'espace public, hein, qui est vraiment quelque chose qui me tient personnellement beaucoup à cœur.
Oui, et qu'on sentait d'ailleurs dans cette rencontre beaucoup plus revendiquée et nommée par les passeurs que par les artistes eux-mêmes. Je ne sais pas si tu as remarqué comment pour les artistes c'était plus...
Les artistes, moi je vois aussi que dans leur conception, c'est Daniel Andrieux qui l'a dit, les artistes eux, ils font du théâtre, ils font du spectacle ou ils font du théâtre, ils s'en foutent un peu des étiquettes, de comment, etc. Par contre, moi c'est vrai que j'ai participé dans les premières années de ma vie professionnelle justement à la définition un peu, à tenter de définir, parce que c'est vrai que on était sur de l'animation, hein, animation de rue, tout ça. Et on a bien vu aussi que les artistes commençaient à faire des choses beaucoup plus chiadées, qui demandaient quand même une technique ou en tout cas un accueil particulier. Parfois il faut des espaces intimistes, parfois au contraire il faut des grandes places. C'est parfois de l'art monumental, parfois des choses très intimistes. Et du coup, il y a besoin de nommer les choses parce qu'en fait, les arts de la rue, ça ne veut rien dire. C'est le terme qui est employé pour le grand public, comme ça. Mais il y a vraiment des gens qui, à l'intérieur, font des formes très, très variées. Très variées. Et aujourd'hui, où effectivement, le grand renouveau depuis ces quelques dernières années, c'est le travail avec les habitants. Hein, le travail avec les habitants, c'est même limite en train de devenir une tarte à la crème. Ces artistes-là, ces artistes qui sont dans cette mouvance du théâtre de rue ou des arts de la rue, ça fait très longtemps qu'ils y réfléchissent à comment ils travaillent auprès des citoyens et comment ils prennent en compte le public dans la création même des œuvres. Et ça, c'est quand même une des particularités. Mais il y a plein de sortes de spectacles très très différentes. Et bien sûr, on peut aussi faire du spectacle de rue, mais dans des endroits couverts. C'est à un moment ce que j'ai voulu dire, c'est-à-dire que quand Opus fait du spectacle, il le fait dans un espace non conventionnel de spectacle. C'est ce que voilà. Mais pourtant, ça peut être une grange. Ça peut être une salle de spectacle qui où il n'y a pas de gradin, où il n'y a rien, complètement vidée de ces espaces qui permettent au public habituellement de s'asseoir. Et voilà, donc en fait, c'est plutôt une recréation à chaque fois des espaces dont on a besoin.
Oui, oui, et puisque ce que j'ai voulu exprimer, et je n'ai pas vraiment réussi à le faire, donc j'en profite d'avoir la parole. Non, mais par rapport à ces lieux-là, c'est-à-dire que ce que je voulais dire par les intersections, les non-lieux, c'est vrai que c'est des lieux qui, du coup, ne créent pas une dimension d'écoute théâtrale et d'attente théâtrale, ils créent autre chose, on est ailleurs, et du coup, on accueille aussi les propositions en étant soi-même créatif par rapport à la proposition qu'il y a, alors que notre position de spectateur, des fois, nous renvoie à une passivité, à un regard un peu attendu, on est dans de la fiction, mais voilà. Et donc d'être dans le faux vrai et d'être des fois dans des lieux non conventionnels et à l'intersection de plusieurs choses est créatif d'un regard déplacé et transposé. Voilà, c'était. J'en profite. Ok, très bien. Est-ce que y a un mot que tu as retenu de cette rencontre?
Bon, non, j'ai trouvé que c'était relativement libre, en tout cas dans les échanges, pour une fois. Parce que c'est vrai que j'assiste quand même assez souvent à ce type de rencontres. Et là, j'ai trouvé que finalement, la parole circulait quand même relativement bien. Il y a eu des élus à s'exprimer, il y a eu des passeurs culturels, des responsables de structures. Il y a eu des artistes, donc finalement je trouve que c'est plutôt réussi par rapport à certaines où je trouvais que c'était un peu froid, où la parole était un petit peu réservée à certains, avec un certain discours, je trouvais que c'était plutôt réussi.
Antoine Le Ménestrel pour le spectacle d'ouverture du festival Chimère à tous les étages.
La rencontre, c'est grâce au fourneau, à Michel et Claude, voilà, qui m'accompagnent depuis 3 ans maintenant. Et puis donc, ils ont commencé à, accroché à ma poésie. Puis il connaissait bien Jean-Louis, donc Banalec, le clocher, c'était le clocher Antoine et Banalec Jean-Louis. Voilà, ça s'est fait comme une évidence, je pense. Donc voilà, ils nous ont proposé de nous rencontrer, et puis l'idée de faire ressortir la gavotte et puis de lui donner une couleur contemporaine. Donc il y a eu cette thématique-là, et la thématique de faire danser les spectateurs suite à la demande de l'ouverture au Deria l'année dernière, où il y avait eu cette demande forte. Et puis le clocher, ils savent bien que moi, que les clochers, c'est un bâtiment, c'est un monument dans la cité qui est dédié à l'intérieur au culte, et que je veux dédier à la culture à l'extérieur. Donc voilà, ça vient de cette idée-là, que ça réunisse les spectateurs, qu'on garde cette thématique-là de l'espace architectural, mais que ce soit une autre réunification, un autre lien, un lien avec la poésie.
Un double lien aussi avec le côté très territorial. On était en plus avec la danse du village, hein, de Banalec, la gavotte, et puis un côté hors-sol aussi, quelque part.
Mon lien, il est de relier le haut et le bas, de relier les espaces. Là, en fait, je relie deux espaces. Hein, je relie un peu l'espace des habitants et l'église, qui sont deux lieux qui font partie de la cité, qui peuvent interagir. Donc là, cette corde, elle relie, elle symbolise ce lien. J'aime bien cette dimension, c'est pas des églises, c'est pas des monuments qui sont trop hauts. Donc je garde un lien avec les spectateurs. Quand, lors de ma traversée aérienne, bon voilà, je souffle, parce que la respiration, c'est mon cinquième point d'appui. Voilà, pour maîtriser ma peur, pour maîtriser mon énergie, ma fluidité. Et il y avait des spectateurs qui reprenaient. Donc voilà, il y a quand même il y avait déjà une proximité de respiration, une proximité de regard. Après, si on monte trop haut, moi j'aime pas monter trop haut, en fait. C'est un côté peut-être plus spectaculaire, mais je lâche la relation humaine. Et puis on voit plus qu'une foule, alors que là encore il y a des endroits où je peux encore regarder les spectateurs dans les yeux. Et donc ça j'aime bien, il y a une communion qui se fait plus intime.
Un rapport charnel aussi avec la pierre, avec le. Vous allez dans des endroits qui sont pas très très fréquentés sur les églises. C'est quelque chose auquel vous pensez quand vous y êtes.
Ah, il y a deux choses dans la question. Il y a un rapport. Les lieux dans lesquels je vais ne sont pas fréquentés, donc ils ont un caractère sauvage, mais vraiment sauvage. C'est-à-dire qu'il y a des pierres qui peuvent tomber. Il y a du lichen, il y a des oiseaux qui peuvent sortir d'un trou au dernier moment, il peut y avoir des bêtes. Je rencontre des pigeons cloués au sol. Voilà, des cimetières de pigeons. Voilà, on est dans un lieu, on est en pleine ville, mais on est dans un lieu sauvage. Donc ça, c'est quelque chose d'assez assez fort qui me donne une force aussi. Et une fragilité, comme quoi je suis là que de passage. Et puis, le deuxième aspect de la question, c'était la ville, le rapport corporel. Ben oui, je prends l'architecture comme la ville corporelle, oui. Que je viens caresser, je viens me lever dans les rosaces. Donc oui, j'ai un rapport très charnel avec l'architecture.
Une discussion quelque part aussi avec les constructeurs de l'édifice, quelque part. Les gens qui passent à cet endroit sont les gens qui ont travaillé dessus à un moment ou à un autre.
Disons que j'aime bien apporter l'échelle humaine. C'est pour ça que c'est un solo. Je remplis pas l'espace. Je cherche pas à remplir, c'est trop grand. Donc je suis là tel un petit prince. Il est là que de passage, il va rencontrer des planètes, il va rencontrer des architectures différentes à chaque fois. Et on voit bien que bon, souvent sous les églises, il y a un côté très... il y a une dimension christique. Donc il y a cette échelle-là quand même, il y a cette échelle-là qui est vraiment humaine, par exemple, dans une architecture qui est liée à la religion, qu'on voit moins retrouver dans une architecture d'un hôtel de ville, par exemple, ou d'un palais, où là, au contraire, on va être plutôt dans le grandiose, les fenêtres vont être très très grandes. Donc c'est vrai, sur l'architecture religieuse, un rapport humain, une dimension humaine qui est plus proche de... qui résonne bien avec ma danse. People, people, get it together. People, 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 people.
spectacle éphémère constitué pour l'occasion de l'inauguration du festival des RIA. On est sur le territoire de la Cocopac, Quimperlé, Finistère Sud. On se trouve à Banalec, pile poil entre Quimper et Lorient. 32 km d'un côté, 35 de l'autre. Et moi, Jean-Louis Levalégan, sonneur traditionnel, joueur de saxophone, je vais travailler à cette création avec un acrobate qui s'appelle Antoine Leménestrel, qui est spécialiste de la grimpe à main nue et qui va escalader le clocher pour libérer l'arc-en-ciel qui est au sommet. Ici, c'est une église qui est un lieu cultuel, mais qu'on pense aussi être un lieu culturel parce que ça rassemble. Un clocher d'église, ça reçoit les regards des uns et des autres pour regarder l'horloge. C'est un point de rendez-vous. Puis souvent, c'est un point de fête parce que là, le marché s'installe là, la fête patronale s'installe là. Puis donner à voir ce patrimoine commun sous un autre angle et générer quelque chose de surprenant, pas forcément d'événementiel, mais de surprenant, des tours de ce lieu, de je dirais, de magnification de ce lieu ordinaire, et le faire avoir une autre parole ce jour-là avec deux artistes, quoi. On voudrait, parce qu'il n'y aura pas de captation, ou il y aura peu de captation, que ça soit quelque chose qui reste dans la mémoire collective, comme étant un instant fort, certes fugace, mais duquel on espère qu'on se rappellera d'année en année, et en ce sens-là, peut-être aussi une forme d'ensemencement de mythologie locale, en disant que, ben voilà, localement, il y a des lieux, il y a des acteurs, et qui donnent confiance dans le local. On n'est pas obligé d'avoir de Jaipur à la Nouvelle-Zélande les mêmes conneries de blockbusters qui sont dispensées et qui aujourd'hui amènent une culture commune qui est acculturée complètement. Mais ici, on a utilisé les gens, les lieux, les édifices, et on espère marquer la mémoire, quoi. Même si, par ailleurs, dans d'autres types de projets que je mène, j'accentue plus sur les intimités et les choses qui dérangent. Ici, j'entends pas faire ça.
A la sombra de la ceiba, nada malo me puede pasar. A la sombra de la ceiba, nada malo me puede pasar. Árbol que sostiene el mundo, corazón de la realidad. Corazón de la realidad. ¿Cómo está tu corazón? Pregunta al Tojo Laval. ¿Cómo está tu corazón? Pregunta al Tojo Laval. Él está contento, hermano, si me dices que tú estás o partido en mil pedazos si te vas de la realidad. Corazón de la realidad. Corazón de la realidad. Corazón. Caracoles del mar de nuestros sueños, madre de los caracoles del mar de nuestros sueños, cuidando la tierra, cuidando el pueblo, cuidando de la realidad.
Corazón
de la realidad.
Corazón
de la realidad.
Corazón
de la realidad.
Corazón.
de Kimán, Mareña de Cristo y la Chihuahua.
Bienvenue à ce débat qui a pour but de faire se rencontrer les professionnels. Dans ce débat, nous allons aborder un sujet qui me paraît très important. J'ai avec moi Fred Touche, Jouf et Tartare qui vont pouvoir débattre. J'espère de manière intelligente, concise et précise autour de ce sujet. Les arts de la rue, mythe ou réalité? Alors j'ai une question pour commencer. Comment l'artiste peut-il exister sur le territoire en gardant son intégrité face aux exigences des professionnels dans le cadre d'un développement durable? Alors, qui veut s'écoller?
Moi, je peux bien répondre à la première partie de la première question,
oui.
C'est-à-dire d'exister sur le territoire. Pour être sur un territoire, il faut d'abord venir. Ça veut dire avoir un équipement adapté. Savoir qu'aujourd'hui, la plupart des compagnies de rue, de manière générale, viennent avec des camions et des camions qui doivent être en bon état. Donc il y a une première réflexion qui doit se faire, à mon avis, pour répondre à cette première partie de la première question sur l'état des véhicules. C'est comment une compagnie doit entretenir son véhicule. Quelles sont les prérogatives nécessaires à l'entretien d'un véhicule qui, au moment d'arriver sur le territoire, est en état de fonctionnement. Ça peut paraître un peu comme ça, un peu fou, un peu délirant de parler de choses aussi anecdotiques sur une question aussi complète, aussi intelligente. Mais je me dis que peut-être le fait de réfléchir sur cette petite dimension un tout petit peu anecdotique, même un peu anodine, peut déjà amener une première partie de réponse à ça.
Oui, moi je trouve intéressant d'aborder le basculement qui opère entre ce qu'est le territoire, c'est-à-dire une surface, et le véhicule qui est un volume. Et là je crois qu'on avance sérieusement pour savoir comment mettre en relief la problématique et faire en sorte que, pourquoi pas, par extrapolation, on passe de la surface au volume et du volume à ce qui est à créer à l'avenir.
Oui, mais alors là, vous parliez de développement durable. Alors, c'est par rapport à la pollution que peuvent engendrer les véhicules. Il faut quand même préciser, sinon ça, on est dans le flou total. Puis, donc si vous dites des conneries en répondant à une vraie question, c'est ça, est-ce que c'est une vraie question ou alors est-ce que c'est une déconnade?
Non, c'est attention, moi, j'ai pris ça personnellement comme une vraie question, mais c'est une question qui est tellement, auquel il est tellement difficile de
Mais là,
de
vous répondre. Partez sur une réponse de dingue, là. Il a une question, une vraie question.
Donc, répondons à cette question. Est-ce qu'il faut aujourd'hui que les compagnies, dans le cadre d'un développement durable, se munissent de véhicules électriques pour être dans
voilà,
le développement durable?
Voilà. Donc, dans les années 80, les compagnies avaient des véhicules pourris. On en a parlé il n'y a pas si longtemps.
Nous,
on a eu des vieux SG2 à moteur 2 litres de frégate. Ensuite, on a changé, parce qu'on a eu le B110 Savième, qui avait le moteur Sofim, qui était un moteur 2 litres 8 fabriqué en Italie, qui était quand même plus performant, mais qui polluait bien autant. Tandis que maintenant, on a quand même le Mercedes Sprinter, qui a un moteur 5 cylindres, qui développe 160 chevaux, qui consomme peu, mais qui a tendance à fumer au bout d'un certain kilométrage.
C'est le rallongé.
Oui,
il faut le préciser.
Alors, je propose qu'on passe à la deuxième question. Vous avez plutôt bien répondu à la première. Alors, quelles sont les problématiques liée à la rencontre entre le système de consommation culturelle et l'acte artistique.
Oui, alors là, on entre dans un problème économique. C'est-à-dire que quand on a des élus qui veulent un festival qui soit aimé par la plupart des spectateurs, on est obligé d'avoir des produits qui se vendent. C'est ça. Hein. Et parfois, on a des idées qui ne vont pas dans ce sens-là. Les spectacles ne sont pas forcément facilement vendables. Donc, c'est emmerdant, ça.
Manu Moser qui vient d'arriver prend la parole, il n'est pas d'accord.
Oui, pardon, j'étais à une réunion sur la verticalité de l'urbanisme et le théâtre de rue. Alors je suis pas d'accord parce qu'à la base un spectacle, on est dans une réalité économique première, alors je suis suisse, et je crois qu'un spectacle qui n'est pas vendable n'est pas vraiment un spectacle qui a une raison de vivre. Il faut voir les choses comme elles sont. Le théâtre de rue à la base c'est une bulle économique puissante de plus en plus, et je crois qu'il n'y a que...
C'est un jurassien suisse, donc voilà, c'est pas un vrai suisse.
Pardon, je suis suisse, pardon. Et je pense que l'économie est le nerf de la guerre des arts de la rue actuellement.
Oui, une réponse à ça, Fred, peut-être l'économie et le rapport entre l'économie et la culture.
Oui, moi je voudrais revenir sur ce que tu me fais, ça me fait penser au chou rouge de Poméranie, qui est un produit extrêmement délicat, extrêmement raffiné. Mais si on va mettre ce chou sur le marché, sachant qu'il est délicieux, sachant qu'il a du goût, c'est quelque chose qui va en forme en bouche, on ne va peut-être pas le vendre de la même manière qu'un chou rouge traditionnel, qui est beaucoup plus banal. Et ça me fait juste, je pense juste à ça dans cette notion économique d'achalandage. Peut-être aussi peut-on faire des spectacles pas forcément bons, mais bien les vendre. C'est avoir un principe de tête de gondole, c'est avoir un marketing adapté, avoir faire croire au public que ce qu'il a vu c'est bien. Donc il y a toute une entourloupe, je parle un peu cru, mais faire une belle daube, mais avec un bel emballage.
C'est-à-dire, oui, c'est un peu comme ce que vous faites.
Et un peu...
Non, mais faut être honnête.
Oh, pas toujours. Des fois, il y a des trucs qui ont été... Qui...
Non, donc, on est d'accord. On est d'accord, là, sur cette deuxième question. Ah, encore une fois, moi, je suis...
Mais ça peut être... Attention, ça peut être aussi des promotions. C'est aussi des promotions, c'est-à-dire faire une... Dire que le spectacle coûte 30 euros et peut-être ne le vendre qu'à 10, sachant qu'en réalité, il en vaut 5.
Oui, puis et aussi, donc... les spectacles qui sont des produits circonstanciels pour les festivals qui fêtent un anniversaire ou qui font un arbre de Noël du conseil d'administration, quelqu'un, bon, là on adapte les prix, alors peut-être pas de la même façon si c'est à Noël, Nouvel An, parce que là c'est quand même des périodes où, comme on sait bien, on est tous intermittents, donc on est plutôt au soleil qu'à jouer dehors, où il fait froid, donc ça suppose des frais de transport qui grèvent les budgets de ce genre de manifestation. Mais quand aux anniversaires, quand ils tombent en pleine période estivale, on peut parfaitement faire une proposition commerciale qui tienne compte de l'envie, d'une part, de l'acheteur, d'obtenir ce qu'on appelle entre nous une merde, c'est-à-dire un spectacle facile qui fasse rire tout le monde et surtout le maire, et ou une sous-merde qui est, alors on a quelquefois, on a eu des disputes entre nous, hein, sur la fameuse différence entre la merde et la sous-merde. Ce qu'on appelle dans notre jargon une M ou une SM, et avec les SM2 qui sont encore le grade en dessous, quoi qu'en ce moment le système de graduation est en train de changer, hein.
Il faut savoir que le problème des SM2, c'est qu'effectivement au bout de 30 à 40 représentations, elles ont tendance à fumer et ça pollue, et ça veut dire qu'il faut refaire toute la mise en scène, des choses,
oui,
comme ça. C'est d'entretien, ça veut dire frais de mise en scène, ça veut dire trouver une résidence, tout ça.
Mais juste, mais je connais pas trop le problème, parce que nous on est en camping-car neuf, donc
oui, alors voilà. Moi je tiens juste à rappeler un truc, c'est que à Noël et à Nouvel An, dans ces grands moments de promotion, moi personnellement je suis pas un de ces niafrons d'intermittents, hein. Personnellement je gagne ma vie normalement, enfin comme quelqu'un monde, comme tout le monde.
En France.
Oui, je suis suisse, effectivement, j'ai pas l'intermittence en ce genre. Voilà, je bosse, moi. Et la différence qui est super importante, c'est que à Noël et à Nouvel An, dans les moments de promotion, pour les 20 ans d'un événement, par exemple, personnellement, ce que je fais, quel que soit le niveau ou la graduation du spectacle, je l'augmente à mort, je leur en fous plein la gueule. Hein. Je veux dire, c'est on cartonne, quoi. Un spectacle qu'on vendrait 10 000 euros, on va le vendre 50 000 euros au minimum. Et parce qu'on le vend plus cher, il est forcément meilleur aussi. Il faut pas oublier cet aspect-là de la vie économique. Plus c'est cher, meilleur c'est. Quoi.
Alors, Manu Moser, est-ce que vous avez vraiment fait des arbres de Noël?
Oui, j'en ai fait tout plein d'ailleurs. J'ai fait Lapin de Pâques aussi pour H&M.
Beaucoup
Ouais, je l'ai fait pas mal de fois, Lapin de Pâques, chaque week-end de Pâques. Et donc ça fait quand même qu'une fois par année, mais je peux faire plusieurs H&M parce qu'en Suisse c'est très concentré les H&M. Et alors j'ai fait des sapins de Noël pour les pauvres et les indigents, notamment j'ai fait ça. C'est là que je fais payer le plus cher.
Les savons de Noël, j'ai mal.
Non, mais je sais pas si c'est vrai ou s'il raconte des conneries. Parce que il n'y a pas une tête à avoir fait des
arbres de
Noël.
Il n'y a pas de petit métier, il n'y a pas de sous-métier, enfin ce serait quand même triste.
Mais par exemple, nous on en a fait 150 des arbres de Noël. Avant d'être intermittent, on s'est mis de côté. Non, je déconne plus, hein. C'est vrai. On s'est mis du fric de côté pour pouvoir être intermittent pendant 2 ans. Parce que ça payait bien les arbres de Noël, ça nous a bien servi.
C'est pas possible de faire 150 arbres de Noël, ça veut dire 150. Non, parce qu'il n'y a qu'un Noël par an, ça veut dire que tu aurais déjà plus de 270 ans depuis le temps que je te connais.
Peut-être que tu as démultiplié les arbres de Noël.
J'ai commencé les premiers arbres de Noël, on commençait en 84 et on arrêtait en 2006-2007. Alors allez-y, posez une autre question, on n'a pas que ça qu'à foutre.
Juste pour terminer, moi je crois qu'il y a, pour revenir sur les spectacles vraiment mauvais, je crois que ce qui fait vraiment la qualité de l'artiste, c'est la franchise. Et je crois qu'on peut se permettre aujourd'hui de faire de mauvais spectacles, simplement le dire à la fin, de dire voilà, ben c'est vrai, on a fait une belle merde aujourd'hui. Et puis voilà, et je crois que les gens disent oui, c'est vrai, effectivement. Et là, il y a une vérité, on est dans une vérité, dans la vérité d'un moment, et c'est... avant tout, ce que va rechercher le public avide d'actes artistiques authentiques.
Je rappelle que dans le cadre des RIA, nous avons organisé une réunion de professionnels, Théâtre Groupe, Tartare, Fred Touche, la compagnie donc le nom du titre, et Manu Moser, la compagnie les batteurs de pavés sont avec nous pour peut-être répondre à cette dernière question. Quelles sont les possibilités d'évolution des différents intervenants dans du théâtre de rue dans le cadre de la biodiversité? Manu Moser saute sur le micro.
Oui, alors je permets de rebondir. La question de la belle-merde, une merde fumante, une merde évolutive.
Et comme toi, il rebondit.
Oui, c'est une question de physique. Et donc cette question de la merde fumante, du spectacle de mauvaise qualité, mais souvent, parce qu'on fait attention grâce au machin 21 que vous avez en France, je crois qu'actuellement on fait très attention à la question d'une merde qui soit compostable. On voit d'ailleurs dans les décors de plus en plus qu'on utilise des peintures qui sont plus au plomb. On prend des comédiens qui sont quand même plus vraiment de première fraîcheur, mais qui moisissent plus vite. On fait vraiment attention à des costumes qui, avec la transpiration, se désagrègent d'eux-mêmes. Moi, je pense que réellement, le théâtre de rue, c'est le théâtre de demain et c'est la nature de demain. J'irais même jusqu'à dire qu'on se réjouit que le théâtre en salle fasse comme le théâtre de rue et devienne compostable lui aussi.
C'est très pertinent, puisqu'il y a la notion de fumier. Et en plus, on est dans la
diversité. On est entre nous.
On parle de biodiversité. Entre nous, c'est vrai. Il y a cette notion de biodiversité. Et il y a dans, effectivement, ces spectacles de merde qui sont capables de créer du fumier, de créer de l'engrais, peut-être pour les générations futures, fabriquer le méthane, fabriquer le booster d'événements un peu plus réactifs, pour utiliser le terme réacteur, hein, c'est juste pour faire un bon mot. Hein.
Ok, je vois que vous avez bien répondu à cette question. Pour en venir au thème quand même... Art de la rue, mythe ou réalité, Tartare, un dernier mot.
Ben, entre l'insecte et l'autre, je crois que l'erreur serait de faire un choix. L'erreur, c'est de faire un choix, parce que ce à quoi on parlait de biodiversité participe la mythe, c'est-à-dire de dévorer ce qui est à l'abandon, c'est en soi une réalité. Donc les deux ne sont pas dans un rapport antagoniste, ce que dit bien la dramaturgie végétarienne lorsqu'elle expose que finalement c'est le tiers état qui est exclu dans cette affaire. Et c'est là-dessus qu'il faut absolument avancer, je crois que c'est important. Pardon, je suis...
Je rappelle aussi que les Grecs croyaient à leur mythe et que par là même, vu qu'on descend directement de la démocratie grecque...
J'avais pas compris mythe.
D'accord, ok.
Excusez-moi.
J'avais pas compris mythe. Bon, c'est l'insecte, je pense. Merci en tout cas à tous les trois. Jouf de Théâtre Groupe, Tartare et Manu Moser, des Batteurs de Pavé, ainsi que Fred Touche de la compagnie Le Long du Titre pour cette intervention. Merci d'avoir été assez aimable de vouloir participer à ce débat. Rien.
Et merci pour l'accueil.
Au revoir. Je tenais à remercier le maire qui nous a accueillis.
Et vive la France.
That you can actually put a wall and so that there will be no contact and that there will be therefore no violence. This is not true. The people who want to do violence will do the violence with or without a wall, with a little more difficulty.
Je suis en compagnie d'Olivier Villanove, Olivier que j'ai pu rencontrer lors d'une formation dédiée aux arts de la rue qui s'appelle la FEAR, la formation avancée itinérante des arts de la rue. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu ce que tu fais là, ce que tu as vécu, ressenti depuis que tu es là?
Alors je suis arrivé dès le jour d'ouverture et ce qui m'a tout de suite plu et touché en arrivant dans le petit village dont j'ai oublié le nom d'ailleurs.
Banalek,
voilà. C'était le monde qu'il y avait et la bonne humeur que les gens pouvaient avoir, de sentir qu'on était sur un moment vraiment très festif. Un petit peu... alors voilà... La chose que je me suis dite, c'est un petit peu comme ces moments de rituel qu'on avait en espace public avant des fêtes catholiques comme la fin du carême, le Mardi Gras, etc. et le 14 juillet ou Noël, où les gens du coup se retrouvent et ont plaisir à se retrouver. Et le 14 juillet, c'est une fête nationaliste, donc les gens, bon, ils y sont sans y être, on va avoir feu d'artifice, mais voilà, ça s'arrête là. Et là, c'est des événements, je trouve, qui rassemblent vraiment les gens autour d'une idée qui est celle de partager un spectacle, de partager un temps d'émotion, de rire et puis de regard sur la société, sur soi-même et tout. Et ça me touche parce que les gens ils embarquent complètement. Et oui, il y a de la galette saucisse, et oui, il y a de la bière servie au comptoir. Et les gens, ils ont les yeux qui sont perchés dans le ciel à voir l'ouverture du festival. Et voilà, les gens se retrouvent sur un moment vraiment joyeux et festif. Et ça, ça me touche.
J'ai vu que tu étais présent à la rencontre professionnelle aussi qu'il y a eu hier. Tu n'as pas pris la parole. Est-ce qu'il y avait des choses peut-être que tu avais envie de dire, d'ajouter? Est-ce qu'il y a eu des manquements pour toi dans cette discussion? Qu'est-ce que tu attendais de ce type de discussion?
Oh ben, j'attendais pas grand-chose sinon que moi d'écouter, de voir qui étaient les gens, comment ils prenaient la parole, qu'est-ce qu'ils avaient à dire, quel regard ils portent sur cette pluridisciplinarité. Oui, je regrette de ne pas avoir pris la parole parce que je pense que j'avais mon petit grain de sel à mettre, on a tous, et puis je me sentais pas forcément légitime parce que je connaissais personne vraiment, juste de coin. Moi, ce que j'aurais pu dire, c'était mon expérience de la FEAR. Mmh. De dire que j'ai traversé 18 mois de formation où on a eu une dizaine de fondamentaux, on a rencontré des gens pluridisciplinaires et qui se révélaient pas forcément de l'art de la rue mais qui avaient un regard, une réflexion sur l'espace public. Et nous-mêmes en tant que formés, apprentis comme on s'appelle, je me suis dit mais qui c'est qui vient vraiment des arts de la rue? On était peut-être 2-3.
C'est tout.
Et sinon, il y avait des plasticiens, il y avait une danseuse, il y avait des clowns, il y avait des musiciens, il y avait un circassien, qui à la limite était le plus proche de ce qu'on peut décliner comme étant les arts de la rue. Et tous les autres, on était là, ça nous intéresse. Et
qu'est-ce que tu as senti comme dénominateur commun? Qu'est-ce qui vous réunissait?
Être en extérieur, ne plus être dans une boîte noire. Ou ne pas être dans une boîte noire, parce qu'il y en a qui y avaient été, d'autres qui n'y avaient jamais été, et d'autres qui voulaient aussi se réinterroger sur leur pratique. Et je m'inclus dedans, parce que moi, à la base, je suis dans les arts de la parole, conteur, orpailleur d'histoire, je vais collecter des histoires de gens, et puis je les retransmets en extérieur, en rue, ou pas d'ailleurs en rue, je dis rue parce que c'est un terme générique, mais sous un arbre. Jean-Georges Chartard, moi, m'a repositionné de me dire, t'es sous un arbre et t'as ta place, oui. Et c'est juste d'être, cet endroit, il est emblématique finalement. Et voilà, on était tous réunis par cette envie de questionner l'espace extérieur. Et moi, de questionner ma parole en espace extérieur, qu'est-ce que j'ai à dire? Et qu'est-ce qui vient résonner dans l'espace?
D'accord. Aujourd'hui, te définis comme un artiste pluridisciplinaire? Tu as envie toujours de travailler dans la rue? T'en es où?
Alors les conteurs me disent, mais tu racontes plus d'histoire? Alors je fais, si, j'adore ça. Là j'ai fait une semaine, ça s'appelle la marche des conteurs, on a traversé la Loire, on a longé la Loire sur une semaine où tous les soirs on racontait dans un village différent, au pied d'une église, dans une ferme, et je me sentais complètement raconteur d'histoire et en même temps à ma place d'artiste de rue finalement, parce qu'on va à la rencontre des gens dans leur espace de vie. Et mais après là où je sens que j'ai autre chose aussi à développer, à définir, c'est pourquoi je me retrouve à cet endroit là qu'est-ce que je viens révéler à travers la parole de l'endroit et l'endroit dans ma parole. Et j'amorce cette petite ficelle que je tire qui m'intéresse vachement.
D'accord, tu m'as dit, j'ai préféré cette année aller au RIAC à Aurillac. C'était.
Ah ouais, bien dit.
Pourquoi?
Dans ma démarche de citoyen, je préfère toujours aller dans un commerce de proximité parce que je connais les gens et je sympathise avec eux. J'ai confiance dans ce qu'ils me vendent parce qu'ils connaissent le producteur. Là, je parle en tant que spectateur, tu vois, comme un consommateur. Et j'étais à Chalon et il y a plein de trucs, c'est génial, mais au bout d'un moment je sais plus quoi choisir. Et là j'aime bien parce que je rentre dans la programmation qui a été définie par un collectif, par des gens, et du coup je découvre une âme, une personnalité, une direction, et puis j'entends parler d'art en espace rural aussi. Et moi ça me plaît, ça me touche de me retrouver là. On est actuellement dans un petit village dont j'ai oublié le nom. Mais j'ai discuté avec une grand-mère de 94 ans. Ouais, à Mélac. Une grand-mère de 94 ans qui me dit, il y a plein de gens, mais vous pouvez quand même vous garer, c'est bien. Hein.
Tout va bien, si on peut vous pouvez venir. Garer, on est sauvés.
Ouais, elle me dit, vous allez voir le spectacle. Moi, c'est plus de mon âge, hein, mais j'ai 94 ans. Je lui fais, mais le spectacle n'a pas d'âge, venez madame. Oh,
allez-y, moi je m'en vais. Mais en même temps, voilà, il y a des rencontres qui se font et puis, ça me plaît, je rencontre des gens. Toi Fabienne, tu vois, voilà, on peut parler ici à Chalon, on se croise, on se serait pas forcément parlé parce que vous. Voilà. Puis moi je viens aussi en voulant proposer. Parce que je travaille beaucoup en Bretagne, moi, dans les arts de la parole, avec le Strapontin, là avec Enbon, certainement sur ma prochaine créa. Enfin voilà, c'est en cours de réflexion. Puis je travaille avec la DAO, qui est les Grandes Marées à Brest. Et j'aimerais bien créer des liens, justement, tu vois, de transversalité entre art de la parole, art de la rue. Et puis au niveau du son, du coup, avec le festival Longueur d'onde. Voilà, et puis j'ai envie de leur dire, bah, moi je peux venir et puis essayer de réunir des gens qui ont envie de travailler ensemble. Et comme disait le gars du Quartz hier, autour d'un projet qui a du sens, un vrai projet qui a... Voilà, donc je suis allé dire bonjour Michel, je m'appelle Olivier, voilà, tu m'as dans la face, prenons rendez-vous.
Et Olivier, est-ce que tu peux nous dire un mot sur cette formation, puisqu'il existe peu de formations des arts de la rue. Je crois que c'est la formation des arts de la rue en France. C'est un genre artistique quand même pluridisciplinaire, complexe, qui revêt beaucoup de choses. Comment est-ce qu'on peut se former aux arts de la rue? Ce qui paraît incongru comme ça.
Alors tous les gens que nous sommes allés voir, que nous avons rencontrés dans la formation disaient « Mais cette formation, c'est sur le terrain qu'on doit se former, je ne comprends pas pourquoi vous faites cette formation-là. » Et à chaque fois qu'on les rencontrait, après avoir travaillé, ils ont trouvé, je pense, un sens aussi. Alors, la FEAR, c'est Formation Avancée Itinérante des Arts de la Rue. Avancée parce qu'elle souhaite nous faire découvrir un large panorama d'artistes qui ont travaillé et ont vraiment un sens éprouvé des arts de la rue, et itinérante parce que le principe est qu'on sillonne la France et l'Europe à la rencontre de compagnies qui ont quelque chose à défendre en espace public et qui, sur des temps de 3 semaines à chaque fois, comme des résidences, eh ben, vont nous faire rentrer dans leur recherche, dans une question, une problématique, et on va la partager avec eux, avec l'équipe artistique, et se questionner, du coup, pour voir un petit peu à travers leurs fenêtres comment eux appréhendent l'espace public, la rue, le spectacle ou leurs travaux.
C'est vraiment un principe d'immersion, oui. D'aller découvrir aussi un petit peu les secrets de fabrication de chacun pour voir...
Bah c'est intéressant parce que ça se situe à plein de niveaux variés. Le premier, c'est de découvrir une compagnie, son fonctionnement, son histoire, par où elle est passée, où est-ce qu'elle en est aujourd'hui. Donc découvrir un peu cette famille-là. Et par exemple, moi j'ai constaté que souvent on rencontrait un couple. Jack Lifshin et Hervé Delafont, voilà, c'est un couple qui a 30 ans d'expérience, et on voit du coup leur maison là où ils travaillent depuis tant d'années, et du coup comment ils se sont organisés au travers du temps pour faire vivre une maison aussi, cette maison qui ensuite crée des spectacles. Donc c'est voir l'envers du décor et le quotidien, et ça je trouve que c'est très précieux dans une formation, de se dire bah voilà, si on se projette quand nous on aura 60 ans, qu'on aura un passif derrière nous, qu'est-ce qu'on a envie que ce soit? Est-ce qu'on a envie d'avoir une grosse boutique ou un truc plus familial, plus resserré?
Les gens qui vont à cette formation, ils sont issus de plusieurs milieux, ils viennent d'où? C'est européen, je crois, aussi comme formation?
Oui. Alors nous, notre promotion était vraiment variée. Il y avait un Brésilien, une Coréenne, deux Catalanes, une Italienne. Et voilà, il y avait des gens qui venaient de tout horizon, un ébéniste de Sudside, un ferronnier d'art à Lyon, il y avait un circassien, moi qui viens des arts de la parole, on est en Bretagne hein, là, avec... et voilà, vraiment, finalement, il y a très peu de gens qui relèvent vraiment des arts de la rue, c'est plus, je pense, l'idée de réunir des gens qui s'intéressent à l'espace public, un rapport éprouvé à l'espace public, où on a déjà travaillé en rue, donc on sait quand même pourquoi on est là. Mais ensuite, on a vraiment un sillon à faire.
D'accord. Donc, du coup, quand tu entendais parler à la rencontre professionnelle de spécificité, les arts de la rue, les arts de la salle, du coup, toi, ça te parlait aussi, ça, cette question-là, puisqu'il y avait certains artistes qui répondaient, mais non, il n'y a pas vraiment de questions à se poser par rapport à ça. Toi, tu avais un regard, du coup, différent quand tu entendais ça?
Oui, parce que dans la formation, on nous aiguise le regard sur qu'est-ce que c'est que l'espace public. Comment, quand on arrive sur un lieu, ben voilà, là... Le comédien va se placer en plein milieu avec une, une vision 360 degrés comme dit Crespin, ou bien on va voir la profondeur de la perspective, est-ce qu'on se met adossé contre un mur, qu'est-ce que ça représente, le soleil, d'où il vient, est-ce qu'on est brûlé, enfin toutes ces questions-là, bah, finalement on s'y est confronté au travers de toutes les rencontres qu'on a pu faire avec des artistes, et puis des fois des confrontations parce qu'on avait des moments de ponctuation où on essayait les choses, et puis on se plantait, puis, ah oui tiens, bah, les gens ils étaient face au soleil, ils n'ont rien vu. Ok, bah c'est con, mais c'est rudimentaire, c'est des fondamentaux.
C'est des fondamentaux, c'est une façon peut-être effectivement de passer certaines marches, d'éviter du coup des erreurs et de pouvoir arriver avec des projets un peu plus, en tout cas forts et consolidés sur des...
Voilà, et puis d'arriver aussi sur un territoire, voilà, ensuite ça dépend des artistes qu'on a pu rencontrer nous au cours de toute la formation, mais... Il y a des artistes qu'on a pu rencontrer, je pense à Julie Demouer, où on s'est posé la question du territoire, arriver sur un lieu, rencontrer les gens, aller à la rencontre des gens, comment on s'y prend, quelle est notre posture, qu'est-ce qui est donné à voir, à entendre, est-ce qu'on se donne des limites ou pas, est-ce qu'on brise des tabous, des frontières. Voilà, c'est pas anodin quand même quand un artiste arrive, je le vois sur, là sur l'Iria, sur le festival de rue ici, en milieu rural, quand on arrive dans un village, les habitants quand même sont à la fois excités et inquiets de tant de monde qui débarque. Et il y a un travail en amont, on sent qu'il y a un travail qui a été fait en amont, où il y a eu des réunions de concertation, et puis l'accueil chaleureux où on voit tous les gens qui sont en train de préparer les crêpes, c'est pas un truc qui est posé pouf dans un coin. Et je trouve que voilà, dans la formation aussi, on apprend tout ce contexte-là. De contextualisation, et ça n'enlève en rien la valeur d'un théâtre qui fait aussi tout ce travail, mais qui n'est pas le même.
Qui est pas le même, bien sûr. Ouais. Et du coup, tu sors de cette formation-là maintenant, comment c'est quoi ton bilan?
Là, ça fait 6 mois qu'on a terminé, en bilan à chaud, je me sens très déstructuré, je me sens complètement perdu, je suis là mais j'ai rien à foutre dans les arts de la rue, et en même temps j'ai envie tous les matins en me levant là, en plus avec l'IRIA, de faire un nouveau spectacle, ouais j'ai une idée, j'ai une envie, ouais je vais faire ci, je vais faire ça, et puis le soir je me couche en disant non il faudrait que je fasse, voilà je pars dans tous les sens, mais je crois que en ayant vu un peu les gens qui ont fait des formations, souvent c'est ça, donc des formations intensives, je crois qu'on a besoin de partir à la fois dans tous les sens et puis de se recentrer, et je suis au carrefour des deux. Je me sens dans des up and down. C'est vraiment ça, mais je me sens riche de quelque chose, mais je ne sais pas encore exactement comment ça va se...
T'as besoin de l'éprouver.
Oui, bah ouais.
Bon, bah écoute, je te souhaite beaucoup de up.
Yes.
À bientôt.
Un jump.
Un jump.
Des interviews proposées par Fabienne Kemener, Ronan Lecause et Paco. Radio RIA, épisode 2, à propos du Festival des RIA 2013, organisé par le Fourneau en pays de Quimperlé. Montage, Paco Farci.